Il y a trois grandes épreuves dans notre vie, l'épreuve de l'enfance, qui est en fait l'épreuve de l'obéissance, qui correspond au troisième degré d'humilité que nous avons vu tout à l'heure, l'épreuve de l'adolescence, et enfin l'épreuve de la maturité, l'épreuve de l'âge adulte. Alors, dans la troisième épreuve, celle de la maturité, le père Thomas, vous savez, qui était un homme tout à fait extraordinaire, écrit tout ça, puis ça nous réveille un petit peu, hein, c'est très concret, hein, c'est ça qui est très bien. Page 53, il y a une infinité de degrés, je vous le dis, et puis je lis la question ensuite. Il y a donc une infinité de degrés dans l'expérience de Dieu. On le sent très bien dans les manières différentes dont les auteurs spirituels parlent de la contemplation. Certains parlent en termes de vue. Je veux voir Dieu. C'est un peu loin d'une contemplation. C'est un peu loin d'une contemplation spécifiquement chrétienne. Le contact avec Dieu ici-bas ne se réalise pas du tout par des yeux. Cette manière de s'exprimer reste un peu sous l'influence des philosophes pour qui la contemplation est un acte spéculatif, c'est-à-dire de vision, de la vue. L'expérience chrétienne, elle, est plus intérieure. Dire que contempler Dieu, c'est surtout l'écouter, être à sa disposition, est déjà beaucoup plus vrai. Parce que, de fait, le sens de l'ouïe correspond à la parole de Dieu. Il est un instrument mieux approprié que les yeux pour entrer en contact avec lui. Alors, la question qui m'est posée est sur pourquoi est-ce que l'ouïe, d'après l'auteur, le père Thomas, est-il un sens plus adapté pour ressentir la présence, le contact, la contemplation avec Dieu, que la vision, que la vue? Bien, oui, voilà une question très, très intéressante, oui, parce que c'est une question de nature, de la vie spirituelle. La vie spirituelle, l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit en nous, c'est une manière, c'est un espèce d'œil, une espèce d'œil, un œil tout à fait extraordinaire, caché d'ailleurs, un phare merveilleux, une espèce de rayon laser, qui permet de découvrir immédiatement, instantanément, les plus grandes profondeurs de ce qui est caché dans l'invisible. Mais ça, Dieu, lui par exemple, c'est un pur esprit. Et donc, c'est une vision continuelle. C'est une lumière glorieuse. C'est pour ça que quand on ira au ciel et qu'on verra Dieu de la manière même dont Dieu se voit, eh bien, on sera dans la vision béatifique. Parce que rentrant donc à l'intérieur donc de la gloire de Dieu, dans le ciel, quand on passera le voile, j'allais dire, des formes spirituelles, même les plus magnifiées par la puissance de Dieu au ciel, on passera aussi intraverbum, à l'intérieur du Verbe de Dieu, dans la manière dont Dieu lui-même se voit. Et ça sera une vision. C'est la vue. Dieu se voit. Il se voit en pleine lumière, dans ce qu'il y a de plus substantiel, de plus subsistant, de plus intime, de plus profond, de plus intense, de plus glorieux. Cette lumière de gloire. Voir Dieu comme ça en face, dans tous ses détails, si je puis dire, enfin, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la vision. Tandis que vous voyez, pour le monde, pour nous, nous sommes des esprits, Dieu nous a créé des êtres spirituels dans un corps. Donc c'est à travers le corps que cet esprit, que la vie spirituelle en nous, notre intelligence, au fond, notre vie contemplative, notre perception, notre découverte, notre compréhension, notre toucher de Dieu va se faire. Donc c'est quand même à l'intérieur, si je puis dire, du corps. Enfin, c'est pas si je puis dire, c'est à l'intérieur du corps que nous voyons Dieu. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il unifie, il fait l'unité. En tant que créateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que j'existe. Et l'être, c'est quoi? C'est ce qui fait l'unité profonde de l'intérieur même entre le corps, l'âme et l'esprit. Ce nœud est à l'intérieur de l'aspect le plus métaphysique du corps. Ce lieu de l'unité est à l'intérieur de l'aspect le plus caché, le plus intérieur, le plus intime, le plus métaphysique de l'âme. Et ce lieu est également à l'intérieur de l'aspect le plus actuel, le plus parfait de l'esprit. Alors ces trois aspects, et du corps, et de l'âme, et de l'esprit, dans ce qu'ils ont de plus central, de plus subsistant, et de plus parfait, plus actuel, sont inaccessibles à nos yeux. Ils ne sont accessibles qu'à l'œil divin. C'est justement ça le créateur. Mais je peux quand même, par le sens du toucher, voir que j'existe. Alors tu vas me dire, c'est plutôt par le sens du toucher alors. C'est plutôt par le sens du toucher. Non, par le sens du toucher, je saisis quoi? Je saisis le fait que j'existe, l'être. Mais oui, j'existe. Ceci est, j'existe. Par le sens du toucher, mon intelligence saisit l'être. Il fait un jugement d'existence. Mais dans l'être que je saisis, c'est un être limité, c'est un être participé, c'est moi, c'est pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Par conséquent, il faut que je puisse, dans le jugement d'existence, saisir à l'intérieur du jugement d'existence que cet être que je suis, il est entièrement originé de l'intérieur par actuellement la dépendance totale vis-à-vis de l'être premier, de l'intérieur même de l'être que je suis. Et il se trouve que l'intérieur de l'être que je suis, c'est une âme dans un corps, c'est une vitalité très profonde dans un corps très limité. Extraordinaire pour l'homme, l'être et la vie, c'est la même chose. Alors, il y a comme un écho à l'intérieur de l'être qui est cet écho de la présence créatrice de Dieu, parce que la présence créatrice de Dieu me donne une vie spirituelle dans un corps individué. Ça va? Donc, par le jugement d'existence, c'est bien le sens du toucher qui me permet de voir que j'existe. C'est bien la vision de Dieu dans un amour actuel, éternel, tout à fait inatteignable par notre intelligence, que nous commençons d'exister. Et pourtant, en même temps, c'est si je rentre intellectuellement, de manière contemplative, par mon intelligence incarnée, dans l'aspect bien réaliste de mon être, il faut que je puisse rentrer à l'intérieur même de l'être, et à l'intérieur même de l'être, je vois cette substance, cette structure spirituelle, cette personne que je suis. Et cette personne, elle est vivante dans une âme qui est toute petite et qui en même temps est dans un corps qui fait écho à la présence créatrice de Dieu. Et cet écho, c'est bien lui, cette présence. Donc là, parmi les trois sens externes, c'est sûr, ces trois sens externes-là ont un rôle très 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 extraordinaire dans notre vie concrète, c'est sûr. Alors, l'ouïe, c'est la présence, c'est sûr. Parce que dès que tu entends la voix de quelqu'un, tu vois, il est présent à toi. Pour l'enfant, vis-à-vis de la mère, c'est clair, quoi. La voix de la mère, le calme, s'il se sent abandonné. Une simple voix de la mère, et hop, ça y est, sa mère l'habite, et il est à nouveau dans le sang de sa mère. C'est un petit peu la voix de la mère remplace le sang qui circulait dans son corps embryonnaire, innocent. Cette espèce de présence de la mère, cette présence de Dieu à l'intérieur de l'embryon, a quelque chose d'extraordinaire. À l'origine, il y a la présence de Dieu dans la première cellule, puis après, c'est la présence de la mère, la présence du sang de la mère dans l'embryon, qui se mêle à la présence de Dieu. Puis ensuite, c'est la voix de la mère et la voix du père, la voix de leur unité, de leur coulement, qui est à l'intérieur. Puis ensuite, c'est la voix du monde, c'est la voix de la présence providentielle de Dieu, maternelle de Dieu, de toute la communauté humaine, la voix de la Jérusalem céleste, ensuite, dans la grâce que nous entendons, et qui se réalise dans une présence vivante au fond de nous. Tout ça, c'est lui. Et si je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de cette parole, de cet écho d'amour lumineux, sécurisant, si je vais jusqu'au bout, à un moment, ça éclate. Et je rentre dans la vision béatifique. Et à ce moment-là, c'est la manière même de Dieu de voir. Ça dépasse toute possibilité humaine. Et ça ne peut se faire, évidemment, que par la plénitude de grâce qui sort de la Jérusalem d'en haut. Ça va? Ça te suffit, ça? Alors, c'est sûr que on est introduit dans la connaissance de Dieu par d'abord cette présence. Vous voyez bien, d'ailleurs, les trois premiers degrés d'humilité, comme je voulais essayer de vous l'expliquer, correspondent à quelque chose qui relève de la nature. Bien sûr, par la grâce, par la force que donne Jésus, on peut aller dans ces degrés d'humilité, faire des actes avec Jésus pour nous aider à faire ces actes. Ça, d'accord. Mais je pense que ça n'est pas du tout impossible à quelqu'un qui n'a pas la foi. Non seulement c'est pas impossible, mais il y en a beaucoup qui sont d'une très 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 grande humilité jusque dans le troisième degré. Il y en a qui nous précèdent dans le royaume des cieux, même sans la grâce sanctifiante, parce que nous-mêmes avec la grâce, on n'arrive pas même au premier degré quelquefois. Non, ici tout le monde arrive au moins au neuvième degré. Mais ici, bien entendu, il ne s'agit pas de ça, je parle des autres, complètement. Mais ici, pas de problème. Hein? Mais si on est humble, hein, Jean-Marie? On est humble, nous, hein? On est pauvre, nous. Tu trouves qu'on est riche? Tu trouves qu'on est... Oh, on n'est pas riche, hein? On est pauvre, on n'est rien du tout. Et heureusement. Vous voyez, au départ, c'est la providence de Dieu. Et cette providence de Dieu, elle nous parle tout le temps dans les degrés d'humilité. Elle parle par les instruments. Dieu a mis proche de nous un père et une mère. Et ils ne sont pas aussi tonitruants dans l'amour. Heureusement, on serait mort. On ne pourrait rien faire. Il n'y a aucune réponse de notre part possible. Heureusement que ça passe par des instruments. C'est merveilleux d'avoir un père et une mère, puis de leur obéir, respecter son père et sa mère. Ils sont tellement généreux, tellement bienveillants vis-à-vis de nous, tellement maladroits, mais c'est sympathique quand même. Cette maladresse continuelle, là. Ils sont tordus, tout ça, mais c'est quand même sympathique de savoir qu'ils ne passent, c'est vrai. Les maladresses du curé de paroisse, les maladresses du prédicateur, les maladresses du confesseur, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. On appelle c'est madame, enfin je dirais pas son nom pour pas trahir un secret de confession, parce qu'elle était venue aller voir le père Emmanuel. Oh mon père, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais vous rencontrer, ou rencontrer un prêtre qui puisse lire dans mon âme, qui puisse voir tous mes péchés, lire dans mon âme directement. Le père Emmanuel lui avait dit, oh mais moi j'en connais un. Je le connais très bien. Ah bon, pas possible, vous en connaissez un, c'est merveilleux, dites-moi tout de suite. Mais il est là, et il monte le tabernacle. Il est directement dans votre âme. Hein? Et c'est sûr, on passe par des confesseurs, si vous voulez, qui sont gauches, et puis, ils nous réfèrent, à eux tout seuls, ils nous réfèrent à la présence de Jésus, et pourtant on passe par eux pour découvrir ça. Voir Jésus, mais lit dans notre âme, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a des côtés un petit peu... Il y a des tas de choses qu'on découvre grâce aux maladresses des autorités qui sont mises proches de nous. Plein de choses qu'on ne verrait pas. S'il n'y avait que des saints parfaits, on ne comprendrait rien du tout. Heureusement qu'on a quelques-uns qui sont des instruments pour nous faire comprendre que l'amour, le cœur est enfin découvert et mis à nu et enfin libre grâce à ces instruments qui nous ont un petit peu dégagé pas mal de terrain grâce au petit coup. Parce que le vieil homme a été sacrifié. Celui qui est mis proche de nous, mais qu'est-ce que vous voulez? Il vous casse en deux le vieil homme, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas vrai, qui n'est pas véritable. côté un peu vieux chez nous, quoi. J'ai un côté un petit peu masque, un personnage, la personnalité, là. Tout le phénomène d'aura, de défense, tout ce petit truc, quoi, tout ça cassé en deux, paf, on se retrouve tout bête. La réputation, tout ça, réputation basée sur rien du tout. Ça me fait mal quelquefois quand on voit des gens, moi j'en ai vu des gens, ah oh, mon père, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire, etc. Ça me fait marrer. Enfin, heureusement qu'il y a des autorités pour me dire, mais enfin, tu ne vois pas, non? Heureusement, parce qu'on pourrait croire, c'est pas, que la réputation a un fondement. Il y a certaines réputations qui sont ridicules. Et là, les autorités sont là pour nous remettre dans la vérité, pour faire que la réputation s'effondre, l'honorabilité s'effondre, le masque s'effondre, tout s'effondre. Ça, c'est génial. Mais ça, c'est la providence de Dieu qui fait ça, vous sentez bien. Que d'obéir, d'être heureux qu'il y ait enfin quelqu'un qui. Bah, c'est blessant, pourquoi? C'est blessant pour qui? Pour l'orgueil. Mais ça, que l'orgueil soit blessé, tant mieux, hein? C'est blessant pour l'orgueil, en réalité. C'est blessant pour le bonhomme pour tous les froufrous qu'on a mis, quoi, et qui cache le cœur, qui fait que le cœur, bon, bah, il est entrelacé, tu veux courir, mais t'as plein de tu t'es mis plein de ficelles, plein de robes, plein de trucs, ouais, c'est exactement comme Goliath, tu t'es mis des cuirasses, ça pèse 300 kilos, rien que les cuirasses, avec les casques, le truc, les armes, les machins, les cuirasses d'ici, les cuirasses de là, le bouclier, le machin, pauvre Goliath, il pèse déjà 96 kilos. 96 kilos déjà, et en plus on lui rajoute 200 kilos. Je vous dis, t'es balèze pour porter ça. Je dis, mon Dieu, c'est terrible ça, vous voyez. Tandis que le petit David, lui, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, il en avait pris plein la patate, avec tous ses frères aînés. Il qu'à lire dans le livre, vous verrez que tout ce qui est sous-entendu, hein. Qu'est-ce qu'il en a pris, pauvre vieux? Et puis il était là-bas, il n'existait même pas. Hein. Il n'existait même pas, à ses propres yeux. Et bien, dans Goliath, elle est à poil, juste un slip, et puis c'est tout. Tiens, il y a une pierre, il la prend avec beaucoup d'amour, et pof, catapulte. Franchement, c'est pas beau ça? À poil, le cœur, et puis, zut, la cible, c'est tout. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà ce que a obtenu pour David, ce qu'il a obtenu par la simple obéissance, parce qu'il a eu plein d'autorités, beaucoup de frères aînés, c'est le dernier. La simple obéissance, il était à la providence de Dieu, du coup il avait confiance dans n'importe quel instrument. Un petit caillou, ça suffit largement, 200 kilos en face. M'en fous, j'ai un petit caillou. Je suis rien du tout, donc c'est bon. Et grâce à ça, vous voyez, parce qu'il a été détruit dans toutes ses opérations de défense, dans ses... fait que c'est un homme remarquable, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut appuyer toute une armée, etc. Goliath, c'était ça, quoi. Et grâce à toutes ces autorités, grâce à toutes ces obéissances faciles, vous voyez, puisqu'elles sont naturelles, c'est normal qu'on obéisse au Premier ministre, si vous permettez, c'est normal qu'on obéisse au code de la route, c'est normal qu'on obéisse aux gendarmes, je vois pas ce qui est anormal là-dedans. Si tout le monde désobéit aux gendarmes, c'est le souk. C'est le souk. Vous avez déjà été dans un souk? C'est pas rangé, quoi. Quand on n'a pas le sens de l'autorité, ben c'est tout dérangé. Il y a le désordre. C'est ça. Tandis que, vous voyez, quand on est dans l'humilité du troisième degré, c'est-à-dire que notre humilité, notre amour est vrai, humainement parlant, alors ça se voit, ce que tout ça. C'est limpide, c'est dépouillé, c'est nu, il n'y a pas de. Vous voyez? Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre dans les trois premiers degrés d'humilité, du moins dans le troisième. Bon, dans le quatrième, je pense que dans le quatrième, si je pouvais essayer d'aider à comprendre où le quatrième degré nous associe dans l'état de pauvreté intérieure et dans l'esprit de pauvreté, je crois que là, cette fois-ci, il faut pouvoir avoir non seulement cet amour naturel, normal, qui me construit, qui me met à nu, qui me réveille, qui me fait grandir, qui me fait croître en sagesse, qui fait qu'enfin le Fils de l'homme est là, il est libre, il est capable d'aimer, de vaincre tous les obstacles, d'aimer Dieu concrètement, d'être vraiment amour, d'être vraiment un cœur, d'être vraiment une intelligence, d'être intelligent dans son corps, dans ses gestes, dans la communauté, etc. Bon, à partir de certain moment, il y a un moment où l'humilité devient héroïque. C'est le quatrième degré. Quand elle devient vraiment héroïque. Quand je dis qu'à ce moment-là, même pour ce qui est parfaitement ajusté à l'amour humain, parce que tout ça, c'est un ajustement tout à fait normal par rapport aux exigences d'un amour humain, lorsque ça va même au-delà des exigences de l'amour humain, que ça devient héroïque, là, il est vrai que j'ai besoin de la foi, de la grâce de Dieu, et de la grâce sanctifiante pour entrer dans l'humilité du Christ, dans l'humilité de l'Église, dans l'humilité du chrétien, dans l'humilité de ce qui précède même le Christ, dans la grâce sanctifiante. À un moment où ma vie humaine serait bien incapable d'atteindre le quatrième degré. Mais parce qu'il y a le péché, il ne faut pas l'oublier, puisque la nature humaine a été blessée, il y a les puissances intermédiaires qui sont tout autour de nous, il y a immensément un nombre énormément grand de tentations, de désespoir, de découragement, de manque de foi, de mensonges, etc. Vous voyez, le courant est contraire, donc il y a plein de choses qui sont contraires à cet amour libre. Si tout le monde pouvait aimer comme ça, dans cette obéissance mutuelle, communautaire, ce serait merveilleux, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, le péché, il est là, qu'est-ce que vous voulez, il y a les fautes, il y a tout. Les courants sont contraires, donc il faut qu'on fasse encore plus que ce qui est normal. Si on veut que l'amour soit là, sur la terre, au moins dans un état à peu près stable. C'est ça le quatrième degré. Alors, je vais vous les lire. Le cinquième degré, il me semble que c'est quelque chose qui va relever de cette nouvelle liberté. On va être capable de redécouvrir un nouvel amour et d'accepter de s'y livrer complètement. On va trouver une nouvelle force spirituelle, corporelle, mais qui est installée, si je puis dire, non pas dans notre nature vivante d'amour, ou dans notre identité personnelle, dans notre « je suis », mais il est dans le « je suis » de Dieu, dans le « je suis » du Christ, dans le « je suis » de l'éternité glorieuse, du cœur de Jésus qui brûle dans la résurrection, dans cette existence corporelle brûlante de l'amour humain du Christ qui brûle dans la résurrection, qui dépasse toutes les potentialités d'amour d'un simple homme, même qui aime à l'infini, de toutes ses puissances d'amour. Parce que le feu qui brûle le cœur humain de Jésus dans la résurrection brûle beaucoup plus fort, bien entendu, que toutes les capacités d'un cœur humain propre à tous les actes possibles d'une nature humaine, même parfaite, même multiplié par un centuple quelconque. Et voyez, là ici, on vient puiser ici dans un cœur spirituel, non pas dans un cœur originel ou primordial, mais dans un cœur spirituel, dans un cœur perpétuellement animé. Et c'est ce choix qu'on fait. On découvre, comme disent certaines personnes, on redécouvre que nous sommes en présence d'un cœur spirituel. Non seulement cet amour frontal, libre, absolu, innocent, plein d'élan, capable de vivre l'extase jusqu'au bout, mais au-delà de cela, il y a, puisque nous avons été imbibés de grâce, nous découvrons le cœur de Jésus, le feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection, avec la même admiration que l'Immaculée dans sa pauvreté, nous nous engloutissons là et nous découvrons notre propre cœur spirituel. Ce serait peut-être le saint, quelque part, voyez ça. Alors là, lorsqu'on découvre cette identité éternelle qui est la nôtre, pas notre identité primordiale dans les mains du Père, mais notre identité éternelle dans le commencement à créer du Christ ressuscité d'entre les morts, alors à ce moment-là, on découvre notre nouvelle mémoire. La mémoire de soi. Nous nous rappelons que nous sommes prédestinés. Et notre corps, à ce moment-là, trouve une nouvelle identité, vous voyez. Alors du coup, ben, c'est possible de contempler cela, et en le contemplant, de venir voir à quoi ressemble ce cœur spirituel dans l'éternité glorieuse, venir y habiter, y engloutir, et y poser là nos actes d'amour, en toute lucidité, et enfin nous y reposer. C'est là qu'on s'aperçoit que tous nos actes seulement humains d'amour n'étaient rien, et c'était le septième degré. Bon, il faut que je répète. Ah ben, tout ça, c'est très très concret.
Dans les faits,
ah, il n'y a pas le tableau. Il n'y a pas le tableau, sinon je vous aurais fait un tableau, mais. Donc je reprends. Bon, si vous voulez, le premier degré, c'est savoir. Rentrer dans nos pauvretés, aimer ces pauvretés et profiter de ces pauvretés pour voir que cette pauvreté est extraordinaire parce que c'est là seul qu'on entrevoit la présence paternelle du bon Dieu qui reste très discret parce qu'il respecte ma liberté, mais en même temps il continue de créer cet état extraordinaire de vie humaine. Cette innocence est toujours là, préservée, prête à jaillir. Et je suis prêt à servir, mais il faut tout le temps que ce soit dans l'allégresse d'un cœur qui accepte d'être ce qu'il est, malgré ce qu'il est devenu aussi, dans l'instant présent. Alors à ce moment, cette découverte de l'innocence profonde qui est en nous, et cet élan, cette liberté, cette capacité quasi infinie d'amour, c'est accepter d'y habiter cette grâce qui est cachée en dessous de tout ce qui pourrait nous paraître contraire. Premier degré d'humilité. Le deuxième degré d'humilité, donc, c'est, une fois qu'on est là, je vous l'ai déjà dit, accepter de se nourrir de la volonté du Père et faire des actes sous l'impulsion même de cette innocence profonde, faire des actes d'amour qui soient aussi fervents que possible, aussi innocents que possible, aussi transparents que possible, aussi profondément associés à la source même de la présence amoureuse de Dieu en nous que possible. Et se nourrir ainsi de la volonté paternelle du Créateur, c'est merveilleux. Enfin, troisième degré d'humilité, c'est que le bon Dieu n'est pas présent seulement, uniquement, je ne suis pas le seul sur la terre, il y a plein, il est Créateur de tout ce qui existe, et il est présent dans un état maternel d'enveloppement par rapport à moi, dans sa providence paternelle, et donc il passe par des instruments pour me ramener toujours à m'écorcher vif, du point de vue du vieil homme, de l'homme faux, que l'homme soit écorché vif, c'est parfait, et si tu es écorché vif, c'est uniquement parce que c'est rien, c'est pas toi qui es écorché vif, t'inquiète pas, bon Dieu n'est pas du tout cruel, c'est les instruments qui sont cruels, mais bon Dieu le permet parce qu'il n'est cruel qu'avec l'orgueil, ça, une cruauté terrible avec l'orgueil, ça, le bon Dieu ne supporte pas l'orgueil, et moi non plus. Donc si en labourant l'orgueil avec des lames de rasoir, avec une cruauté le plus invraisemblable, je vous décourage, tant mieux, génial. Mais je décourage l'orgueil. C'est pas moi, vous comprenez ? Moi je suis pour rien. C'est l'instrument qui fait ça. Donc, vous voyez, obéir à celui qui est proche de nous en y découvrant joyeusement la même source d'amour. Et donc en faisant un acte d'obéissance immédiate, joyeux. Oui. Alors à ce moment-là, ça, vous voyez, on est dans le troisième degré d'humilité. Lorsque on est établi dans cet état de manière habituelle, on est tout à fait dans le troisième degré. Mais on peut s'y mettre quand on veut, hein, dans un acte ponctuel, il suffit d'y penser. Bon, ça, c'est facile. Donc, le quatrième degré, cinquième degré, sixième et septième degré vont être des degrés qui impliquent déjà quelque chose d'héroïque. Il faut quelque chose d'héroïque. Il y a quelquefois, il se trouve que tous ne sont pas d'une bienveillance extrême par rapport à mon identité native, par rapport à mon identité extatique, par rapport à mon identité, par rapport à mon je suis contemplatif, par rapport à mon je suis assoiffé d'extase, d'amour, de don, d'accueil. Il y en a qui sont contre l'amour, il y en a qui sont contre l'existence de l'homme, il y en a qui sont contre la présence providentielle de Dieu, il y en a qui ne sont contre toute représentation ou toute manifestation, même invisible, de la présence de Dieu dans l'être humain. Il y en a qui luttent contre ça avec ardeur. Et en premier, les démons. Des myriades de démons avec une rage invincible et une intelligence incroyable. Donc une efficacité prodigieuse. Et puis, il y a tous ceux qui sont autour de nous et nous-mêmes, du reste, qui sommes à nous-mêmes notre propre démon. Notre orgueil qui nous crucifie, et ceux qui sont autour de nous dans leur propre orgueil, leur jalousie, leur avarice, leur paresse, etc., qui nous font aller dans le sens contraire. Et donc, pour que cet amour simplement natif puisse seulement exister concrètement, il faut bien aller au-delà de ce qui est normal, puisqu'il faut remonter le courant contraire. Et c'est là que les vertus héroïques sont nécessaires. Pour vaincre le péché, nul n'en est capable que Dieu seul. Et c'est pourquoi le Verbe s'est incarné et qu'il a fait sortir cette puissance nouvelle d'un cœur cadavérique qui s'est ouvert et est sorti de l'eau, des torrents d'eau, le sang et l'Esprit Saint. Alors cette grâce extraordinaire, comme Dieu qui, cette fois-ci, le Père ne suffit plus, d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait l'Esprit Saint qui s'unisse au Verbe de Dieu dans une discrétion, un silence absolu. Tu vois ? Un silence absolu. Le silence du cadavre du Christ. Et cette blessure du cœur qu'on appelle l'agneau de Dieu. Quand on dit l'agneau de Dieu, ça veut dire la blessure du cœur de Jésus. Et quand vous dites « agneau de Dieu », vous regardez une immense blessure, beaucoup plus grande que le cosmos, d'où sort des torrents d'eau, de sang et l'Esprit Saint. Et comme on ne peut pas représenter une blessure qui est plus grande que le cosmos, on met un agneau. Un agneau. Tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. C'est plus un homme, il est mort. Quelque part. Mais c'est un corps quand même. Et il était gorgé au cou, vous voyez, la médiation. Cette plaie vivante est extraordinaire. Alors à ce moment-là, là, ici, j'habite dans la contradiction la plus absolue et l'incapacité d'aller plus loin. Je peux habiter, vous voyez, dans cette incapacité d'aimer et d'aller plus loin que ce que nous venons de dire dans les degrés d'humilité, c'est-à-dire d'amour pauvre, c'est-à-dire d'amour vrai. L'amour vrai, l'amour pauvre ou l'humilité, c'est exactement la même chose. Vous avez tout compris, j'espère. Alors, il faut que j'habite dans une nouvelle existence. C'est l'existence de Jésus, agneau de Dieu, dans cette plaie. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Oh, du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Et à l'intérieur de la blessure de Jésus, je rentre dans le quatrième degré d'humilité, c'est-à-dire dans la grâce sanctifiante, dans les torrents silencieux, de l'océan jaillissant de grâce sanctifiante qui sort de la grâce capitale de Jésus ressuscité, largement ouvert, dans une plaie vivante. Il a été transformé éternellement en plaie vivante. Et je viens m'installer dans cette plaie vivante pour trouver une nouvelle identité, pour trouver une nouvelle source de vitalité, qui est la vitalité même de Jésus. Et là, vous voyez, je suis capable d'affronter les pires avanies, persécutions, mépris, dérision, injustice. Et à ce moment-là, si les instruments qui sont à côté de nous me demandent quelque chose, non pas en raison d'une autorité d'amour, mais en raison d'une inimitié pour détruire mon identité d'amour, ma vocation à la lumière et à la vérité, ma vocation et mon droit à la liberté humaine, pour vivre comme un homme debout, rempli de lumière, de recherche de vérité, d'amour. Et si à ce moment-là, celui qui est proche de moi se transforme en ennemi de la vérité, en ennemi du don, en ennemi de l'accueil que je veux vivre, en ennemi de mon amour, en ennemi de mon unité, en ennemi de ma parole donnée, en ennemi... Alors à ce moment-là, c'est un ennemi, mais je l'aime avec autant d'amour que si c'était Dieu lui-même que j'avais en face de moi. Voyez ça, ce degré d'humilité-là, ça ne peut se vivre que quand on est à l'intérieur des plaies de Jésus, dans la grâce sanctifiante. Cette humilité évangélique, par là le précepte du Seigneur est accompli. Si on vous frappe sur une joue, tendez l'autre. Si on vous ôte votre tunique, abandonnez même votre manteau. Par là, avec saint Paul, on supporte les faux frères et on bénit ceux qui vous maudissent. On le reçoit joyeusement comme une nouvelle bénédiction, une occasion de se plonger dans le « je suis » du Christ et mettre son « je suis » dans le « je suis » de Jésus, dans cette plaie surabondante de vivification lumineuse d'amour qui dépasse bien entendu les horizons de notre terre. Cette humilité évangélique consiste à se soumettre à ses ennemis, à tout ce qui nous brise d'une manière ou d'une autre, à ne pas se révolter des injustices à notre égard, à se servir divinement de ses attaques pour aimer d'une manière plus cachée, plus pure et plus forte encore que jamais. Se servir d'une injustice pour aimer à un degré beaucoup plus profond qu'un degré humain, mais à un degré de grâce. Un degré qui fait que la lumière intérieure qui est à l'intérieur même de la divinité de Dieu, celle qui illumine l'intériorité amoureuse de Dieu dans son rayonnement intérieur et sa vivification dans le renouvellement, ce soit cette lumière-là, parce que la grâce sanctifiante, c'est ça, c'est une lumière vivante qui actue l'intimité intérieure de l'amour et de l'intimité des relations personnelles qu'il y a en Dieu. Cet amour est si lumineux, vous voyez, que c'est une lumière, mais ce n'est pas une lumière, c'est une lumière vivante, la grâce sanctifiante. Voilà ce qu'il y a dans la blessure du cœur de Jésus, où je mets mon « je suis », mon pauvre cœur, ma pauvre personne, entièrement, donc persécutée, contredite. Et vous voyez, quand on fait, par exemple, et ça, c'est... C'est quand on fait, par exemple, les vœux de religion, on dit qu'on fait vœux de pauvreté. Le vœu de pauvreté commence ici, dans le quatrième degré d'humilité. Le vœu de pauvreté consiste à renoncer à tous ses droits. Or, le vœu de pauvreté, ce n'est pas valable seulement pour les moines. C'est valable pour tous les baptisés. Il faut accepter de renoncer à ses droits. Je me suis mal pris dans la formulation. J'ai dit « il faut ». Ce n'est pas « il faut ». C'est... accepter de renoncer à ses droits, voilà la bonne nouvelle que Jésus nous apporte. Tu acceptes, tu cherchais une réponse, et bien la voici, Jésus te donne une nouvelle excellente, formidable, inattendue, surprenante. Tu renonces à tes droits et tu as infiniment plus que ce que tu as perdu par la persécution. Et tu l'as vraiment! Et voyez, ça, c'est la grâce sanctifiante qui structure ça, qui fait qu'on a une nouvelle existence. C'est ce que disait le Saint-Père au jeune à Shestokova. Il était à Shestokova, il a dit, « Ce jeune, les papes vous aiment, et Jésus-Christ aussi. Il aime l'homme, il aime la femme, il aime les jeunes. » Eh oui. Et vous rappelez bien donc ce qu'il disait, moi ça m'a frappé beaucoup, beaucoup à Shestokova. Il n'y a pas de représentant ici, mais ceux qui étaient à Shestokova, vous voyez tout. Mais il a dit quoi? Il a dit, si vous voulez, vous les jeunes qui êtes ici, arriver à passer la frontière du deuxième millénaire, pour entrer dans le troisième millénaire, en étant encore un tout petit peu humain, vous ne pourrez pas y arriver si vous ne rentrez pas dans l'espérance. Et l'espérance consiste à mettre votre je suis dans les je suis de Dieu, dans les je suis de Christ. Hein? Ça qui dit, il faut qu'on accepte au fond de rentrer dans la vie chrétienne et de que notre identité puisse être non seulement retrouvée, mais supernaturalisée, parce que c'est bien ça le mot exact, dans le je suis du Christ. Et ceci à travers des contradictions absolues. Que jamais dans toute l'histoire de l'humanité on trouvera une contradiction aussi totale par rapport aux aspirations naturelles et aux droits les plus élémentaires du cœur et de l'intelligence humaine. Et après, on ne retrouvera jamais une telle prévarication non plus. C'est nous qui devons subir ce combat eschatologique. Mettre son je suis dans le je suis de Dieu. Et ça, c'est l'identité. Alors, le cinquième degré va simplement nous permettre, simplement, une fois qu'on a mis son existence là, nous permettre de, simplement de découvrir, de nous mettre à nu, si je puis dire, de découvrir une nouvelle liberté, et donc là, dans ce lieu-là où on s'est installé, un acte nouveau, des actes d'amour nouveaux vis-à-vis du prochain. Et le premier acte, simplement, c'est de montrer, simplement, que si il y a cette inimitié vis-à-vis de l'identité humaine, j'accepte très volontiers que cette inimitié se répande même à ceux qui m'aiment beaucoup. Puisque ma nouvelle identité est dans les cieux, je m'en fiche complètement. De ma réputation, de mon identité, etc., sur la terre. Complètement. Et donc, j'ai une nouvelle liberté. Et ce signe de cette liberté nouvelle, dans les actes, ça va se manifester par le cinquième degré d'humilité. Mais cette liberté, elle va pouvoir me permettre de poser de nouveaux actes d'amour, de nouveaux actes de connaissance et d'accueil de l'amour de Dieu, et de l'amour humain dans le Christ par rapport à moi, je vais découvrir mon cœur spirituel. Ayant découvert mon cœur spirituel, je vais pouvoir entièrement faire des actes à partir de mon cœur spirituel, et ces actes ont pour effet que tous les actes que je posais humainement, tout simplement, avec mes aspirations à l'amour, se sont anéantis. Mes aspirations naturelles à l'amour se sont anéanties. Voilà, j'ai répété une deuxième fois. Il faut répéter une troisième fois. Donc, je vous lis simplement dans Saint-Benoît. Le quatrième, je vous l'ai dit. Il faut l'amour des ennemis. Vous voyez, quand on atteint le degré héroïque de l'amour des ennemis, on ne peut pas faire autre chose que le faire en s'installant à l'intérieur, cette fois-ci, de cette identité de Jésus qui s'identifie à l'agapé, c'est-à-dire l'amour qui dépasse tout et qui fait qu'il est tout à fait lui-même dans l'amour des ennemis. Donc si quelqu'un est mon ennemi et que je peux l'aimer, et je fais un acte, je m'engloutis dans la blessure du cœur de Jésus, je viens me cacher dans ce creux du rocher, et à ce moment-là, je l'aime encore, mon ennemi. Ah, je souhaite vraiment qu'il soit béni. Je souhaite vraiment, je suis prêt à ce qu'il continue longtemps comme ça, du moment que c'est pour son bien, un jour. Si pour un jour ça devait être pour son bien, j'accepte très volontiers. Donc le cinquième degré, maintenant, il va consister à découvrir sa propre identité nouvelle et à voir et à constater dans les faits concrets que j'ai une vraie liberté surnaturelle, que j'ai une vraie puissance nouvelle. À quoi est-ce que je vais reconnaître que j'ai une nouvelle identité, une nouvelle liberté, une nouvelle force supernaturellement présente et disponible? Je le reconnaîtrai à ce que je suis capable concrètement de découvrir à mon père abbé, à mon prieur, à mon supérieur, à mon père, à ma mère ou à mon curé, par un humble aveu, toutes les pensées mauvaises qui viennent de mon cœur, ainsi que toutes les fautes commises d'une manière secrète, les plus inavouables. L'Écriture nous y exhorte en disant « Révèle ta conduite et espère dans le Seigneur ». Cette humilité qui va au-devant du pardon en reconnaissant son état de pécheur et en acceptant de livrer joyeusement ses défauts les plus morbides et ses fautes les plus inavouables. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Et quand on est capable de se confesser et de montrer vraiment le côté vraiment, vraiment... Oui, c'est là, on enlève cette fois-ci, là, on est capable d'enlever donc toutes les cuirasses de Goliath, hein, à poil. Dieu sait que c'est pas beau. Ah, c'est sûr. C'est sûr que là, bon. Alors là, quand on est capable, c'est merveilleux ça. Oui, comme c'est extraordinaire, je trouve. Regardez, déjà, de le faire simplement. Regarde ce que je vaux. Mais le faire devant quelqu'un qu'on aime bien, qui nous aime, qui a autorité sur nous, son père, sa mère, avouer sa faute. Avouer quelque chose qu'on a fait. Si on a fait quelque chose avec... si on a fait quelque chose avec quelqu'un qui est proche de nous et... je sais pas moi, quelque chose de mal, hein, quelque chose de... Il y a des choses morbides qu'on fait quelquefois. C'est vrai. Il y a des mères, ou même des pères, qui font des choses qui sont mal, vraiment, hein, avec leurs enfants, quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas le savoir. Alors. C'est vrai, ils souhaitent quelquefois qu'ils n'existent pas, hein, quand ils sont dans le sein maternel, ils préfèrent être tranquilles. Hein. Ils en font peut-être des opérations aussi, quelquefois, hein, qui ne marchent pas, tant mieux, grâce à Dieu. Et il y a quelquefois aussi, je ne sais pas moi, des choses qu'on fait qui sont sales, hein, avec... c'est vrai. Qui sont sales, on profite, on est vraiment pas terrible. On a eu des moments, il y a eu des actes qu'on a commis, vous voyez, qu'on n'a jamais avoué, jamais. Jamais. On n'est jamais passé à l'aveu, c'est extraordinaire ça. Mais passer à l'aveu, on pourrait le faire à condition de payer un psychanalyste, ça d'accord. Alors on paye un psychanalyste, si on paye un psychanalyste, on est d'accord de sortir tout cet aspect morbide. Mais parce que, pourquoi le psychanalyste, lui, il est lui-même un peu cinglé. Et, un, il trouve son avantage, parce que c'est pas mal. Et deuxièmement, il est très curieux de toutes ces choses-là, alors on s'aperçoit qu'on le satisfait. Mais dire ça à son père, à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un qui attend de vous une bonne réputation ou une gloire, parce qu'il c'est votre ami, donc il attend d'avoir un bon visage de vous, et que vous lui dites, voilà ce que vous avez fait, que vous êtes capable de le dire joyeusement, vous voyez Saint François d'Assise, c'est ça, confesser ses fautes à ses frères. Qu'est-ce qui était pauvre? Qu'est-ce qui ressemblait à Jésus? Qu'est-ce qui était libre? Mais pas être pouvoir dire, donc avouer, dire ses pensées les plus secrètes, voyez bien, et penser un peu. Ah oui, en ce moment, c'est terrible, voilà, j'ai eu cette pensée-là. Je sais bien que c'est pas vrai, mais enfin voilà, c'est pour. Voilà. Ou alors j'ai eu cet acte-là, hein. J'ai fait ça. Vous voyez? Il y a des fois, vous savez, c'est ce que disait le bon père Emmanuel quand il disait. Écoute, tu viens te confesser là pour me dire des trucs qui n'ont aucun intérêt. Bon, parce que tu te sois mis, que tu. Bon, je m'en fiche complètement. Mais si tu pouvais me dire quelque chose de bien saignant. Moi, je sais que. Je sais que tu en as. Il dit, moi-même, j'en ai plein. Alors, si moi j'en ai, je te reconnais. Tu en as aussi. Même si tu l'as déjà confessé. Ça, c'était sur le ventre de pouvoir le dire, ça.
Alors, ça réveille, vous comprenez, la véritable identité de l'homme de cette terre. Et vous le dites joyeusement. Vous êtes heureux de pouvoir dire, ben voilà. Je suis mon propre ennemi. Il y a quelque chose d'héroïque, hein, c'est vrai, c'est une confession comme ça. Et ça fait jaillir la contrition. Mais tandis que si tu dis, ben voilà, j'ai raté mon office d'avant-hier, t'as aucun regret, aucune contrition. J'ai raté mon office d'avant-hier. Hein, c'est. Ah, j'étais là et j'étais assez content de moi parce que j'ai fait un super sermon, tout ça. Bon, ben ça s'en fiche, c'est normal, ça, c'est. Il n'y a rien de révoltant à ça. Rien de révoltant. C'est vrai, il y a des c'est une de ces choses qui sont très étonnantes quand on va dans ces nouvelles communautés, vous savez, un peu charismatiques. Il ne faut évidemment rien exagérer, mais. C'est, par exemple, les béatitudes, ou je ne sais pas quoi, ou la Sainte Croix, la Théophanie. Ben, il fallait dire toutes ces pensées, dire tout, hein, au berger, tout le temps. Ah, c'est quelque chose de beau. Dans un noviciat, il faut dire ses pensées au Père Maître. Toutes ses pensées. Ceci étant, comme je dis quelquefois, pour continuer ma confession, n'est-ce pas? Ceci étant, bon, pour la plus grande gloire de Dieu, tiens, vous dire, j'ai gardé ma virginité, pour ceux qui pensaient à ça, n'est-ce pas? J'ai gardé ma virginité, ça c'est déjà pas mal. Mais enfin, je veux dire, ça ne me glorifie pas pour autant, croyez-le bien. Ça glorifie le bon Dieu, ça c'est sûr. Mais quand même, dire ses actes, vous voyez, dire ses pensées, montrer, voilà, ce qui nous habite, hein, le dire carrément, ça montre qu'on est libre. Et qu'on a lâché prise par rapport à notre propre liberté humaine et qu'on a trouvé une nouvelle liberté dans le Rédempteur de l'homme. C'est ça qui signe. C'est ça qui fait la signature du cinquième degré d'humilité. Alors à ce moment-là, on peut enfin découvrir son cœur spirituel par la contrition et la confession exacte et complète. Vous voyez, sans rien trop cacher, en disant, oui, c'est parce que... Non, tout nu, à poil, hein, tu dis carrément, et tu le dis tout simplement. Et à ce moment-là, tu découvres ton cœur spirituel, parce que c'est à ce moment-là, ton cœur, en faisant ça, il s'est transplanté dans le cœur ouvert de Jésus. Et à ce moment-là, il est recréé. C'est une glaise, Adam. Mon corps humain est une glaise. Elle est remodelée dans la blessure de l'agneau de Dieu et elle prend la forme de la blessure du cœur de Jésus. Voilà la forme nouvelle que prend mon cœur. C'est plus un cœur humain, c'est un cœur ressuscité d'entre les morts. Et il brûle du feu de la résurrection et il a cette forme-là. À ce moment-là, je peux commencer à voir mon corps spirituel et je peux venir habiter là. Et ça, quand j'habite là, je suis dans le sixième degré d'humilité. Est atteint lorsque
l'on est satisfait par tout ce qu'il y a de vil et de bas, et lorsque, à l'égard des charges qu'on vous confie, des petits travaux qu'on vous fait faire, des services qu'on vous demande, etc., vous vous estimez serviteur incapable et indigne, déclarant avec le prophète, j'ai été réduit à rien, je ne sais rien, je suis devenu comme une bête de somme devant vous, et je suis toujours avec vous. Cette humilité nous donne un sens aigu de notre néant, de notre dépendance totale. Par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire de bien. Nous voyons clairement que nous ne méritons qu'une seule chose sur cette terre, c'est être rejetés et méprisés. Et que cela est parfaitement juste en toute vérité. C'est tout à fait normal. Et quand on pense, voyez, ça, c'est parce qu'on a perdu le sens du péché, hein, qu'on ne pense plus à ça. Mais si on avait... Mais vous rendez compte qu'un seul péché mortel, un seul péché mortel, normalement, si l'amour de Dieu était totalement ajusté à son acte créateur, à sa providence, à son cœur paternel, à cause d'un seul péché mortel, si l'amour de Dieu était totalement ajusté à ce que nous sommes et ce que nous avons fait, on devrait être éternellement en enfer. Si Dieu nous aimait d'un amour parfaitement ajusté dans une justice absolument extraordinaire et infinie, une justesse d'amour, un seul péché mortel, on serait en enfer pour l'éternité. Et on voudrait encore être au pinacle. Qu'est-ce que c'est ça? Vous comprenez? Mais non. Par nous-mêmes, sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire de bien et nous ne méritons que d'être rejetés et méprisés. Et c'est cela qui est juste et voilà ce que nous voyons. C'est juste. Ça, c'est... C'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien ce degré d'humilité-là. Il est pas mal. Il n'est pas difficile, hein? Non! Il n'est pas très difficile. C'est tout ça, c'est des degrés qui sont... Non, mais ne dites pas que c'est difficile. Dites que c'est pas celui qu'on vous enseigne à la télévision, ça d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord, on n'enseigne pas ça à la télé, d'accord. Heureusement, c'est le cœur de Jésus qui nous enseigne ça. Lui, il est méprisé. Il est rejeté et il trouve que c'est juste. C'est ça qui est parfaitement juste. Laisse-moi faire ce qui est juste. Voilà ce qu'il dit à Saint-Pierre. Et si c'était le contraire qui se faisait, qui était magnifié, qui était suivi, etc., et qu'on ne crucifie pas, etc., il attribue ça à celui qui est totalement injuste, c'est-à-dire à Satan. Et il le dit à Pierre. Ah non, tu n'iras pas pour être crucifié, etc. Arrière de moi, Satan, il me faut faire ce qui est juste. Il faut que le monde sache que j'aime le Père. Et il monta au monde et solidifié. C'est extraordinaire. Voilà ce qui est juste. C'est d'aimer comme fils, verbe, incarné, dans le verbe incarné, le Père. Voilà ce qui est juste. Et quand dans l'Écriture on parle de ceux qui sont justes, c'est ceux-là qui ont atteint le 6e degré d'humilité. Abraham était injuste. Et on est injuste par la foi. Voyez ça. Alors, on peut rentrer dans le 7e degré d'humilité, qui consiste non seulement à déclarer par des paroles qu'on est le dernier et le plus vil de tous. Parce que là, vous voyez, on le sait et on le dit dans le 6e degré. On sait, je suis vraiment le dernier des derniers. Vous ne vous intéressez pas à moi, ça ne vaut pas la peine, ne regardez pas. Je vous assure, vous croyez des choses qui sont... Je ne suis rien du tout. Je suis même plus monstrueux, j'ose pas vous le dire, mais je devrais oser. Bon. Mais j'ai osé avec mon confesseur, donc ça va. C'est déjà pas mal. Et mais on le dit, oui. Qu'on n'est rien du tout, que non, surtout ne dites pas ça, c'est pas vrai. Non seulement on le dit, non seulement on déclare par les paroles qu'on est le dernier, plus vide de tous, mais encore, on le croit au plus intime de son cœur, en s'humiliant et en affirmant, comme le prophète, psaume 21, psaume 87, « Pour moi je suis un ver, non pas un homme, je suis l'opprobre des hommes, le rebut du peuple, j'ai été élevé puis humilié, couvert de confusion. » Oui, au fond, ce septième degré, vous voyez, il est très très proche du sixième. Seulement le sixième, il se proclame par la parole, parce que si vous le dites extérieurement, parce que vous le voyez intérieurement, c'est une chose. Mais si vous faites des actes d'amour et une relation amoureuse et vivante avec ceux qui sont proches de vous, en vivant ça, vous êtes dans le septième degré. Vous faites un acte d'amour où vous êtes vraiment le néant, rien du tout. Et voyez, ces sept degrés d'humilité sont quand même quelque chose d'extraordinaire. Le premier degré, il implique qu'on vive dans notre innocence d'origine, dans notre liberté fontale, dans notre memoria dei, comme dit saint Augustin, dans notre corps originel, comme je disais tout à l'heure, dans cette présence, les mains paternelles de Dieu. Le deuxième degré, il fait simplement qu'on découvre au fond de nous notre cœur profond, la source de notre amour. Il est lié à l'amour de Dieu. Et donc on est prêt à faire des actes d'amour infinis de volonté de Dieu. C'est notre cœur, c'est notre volonté. Le troisième degré, c'est par rapport à notre intelligence. Du coup, ayant découvert notre cœur, on est capable d'adorer dans tout notre être et de voir Dieu dans cet amour. Alors on est capable d'être contemplatif, si vous voulez. Et donc c'est pour ça qu'on voit Dieu dans les autorités qui nous sont données par la providence concrète. Dans le quatrième degré, eh bien là, il faut faire ces actes d'amour des ennemis. Ces actes d'amour des ennemis, ils sont vitaux, ils sont spontanés, ils sont brûlants, ils sont envahissants, ils brûlent tout ce qu'on vit et tout ce qu'on fait à partir du moment où on vient habiter dans le cœur de Jésus et qu'on se plonge dans la grâce sanctifiante, c'est-à-dire qu'on vit des sacrements. Quelqu'un qui vit plus de sacrements, il ne pourra pas faire ça. C'est totalement impossible à l'homme. Alors il vit de la grâce sanctifiante, il découvre sa nouvelle mémoire, il découvre sa nouvelle liberté, sa nouvelle memoria dei, c'est-à-dire son corps, eh bien, il est transplanté dans le corps, dans la communion des saints, dans le corps mystique de Jésus, dans la plénitude de grâce de l'Immaculée Conception, il est plongé dans la grâce, il est habité dans l'Immaculée Conception et dans les bras de Marie qui vient imbiber son corps, son identité, son je suis, il y a une identification, il y a un accueil, une imprégnation de tout ce qui est dans le cœur sacerdotal de Jésus, l'Immaculée Conception. À ce moment-là, je suis chrétien, voilà ma gloire. C'est le quatrième degré. Le cinquième degré, bon, eh ben, c'est de retrouver du coup, par des actes concrets, je suis capable librement de me livrer et de m'offrir concrètement, donc vis-à-vis de ceux qui sont proches de moi, en montrant ce que je suis dans la réalité. Et là où je suis le plus moi-même, c'est dans les actes où Dieu était totalement absent et où moi j'étais totalement présent. C'est donc dans les actes les plus morbides et les plus invraisemblables et les plus inavouables que là j'étais là tout seul, moi-même. Donc je suis capable de me livrer moi-même devant Dieu et devant les hommes et donc je suis capable d'avouer mes péchés en face et tout nu. Ça prouve que j'ai une nouvelle liberté, ça prouve que j'ai une nouvelle mémoire de moi, ça prouve que j'ai saisi mon nom nouveau, ça prouve que j'ai saisi l'appel de Dieu, ça prouve que je suis dans ma vocation. Je suis sauvé et glorifié par le Christ. Alors à ce moment-là, oui, je peux rentrer dans une intelligence nouvelle et je peux voir Dieu, je peux avoir un cœur pur. Et à ce moment-là, je suis chaste dans mon amour et mon humilité est chaste et limpide, transparente. Voilà, et je le dis tout simplement. Le troisième degré, c'est l'acte d'un amour vrai, contemplatif. Le quatrième degré, c'est un acte de recréation de toute mon identité humaine dans les plaies brûlantes de Jésus. Le cinquième degré, c'est quand je fais un acte de foi. C'est quand je fais un acte, quand je fais un acte d'espérance, quand je fais un acte de liberté, de confiance totale, la confession c'est ça, hein, de confiance absolue en Dieu à travers celui à qui je vous mets péché. Et j'exprime cette contrition dans une confiance totale du pardon à travers les instruments les plus inadaptés. Rien de plus inadapté qu'un homme pour me donner le pardon de Dieu. Le sixième degré, c'est là où la foi est vive et où je vois que tant que je ne suis rien, que Jésus est tout pour moi et qu'il n'y a plus que Jésus pour moi. Et le septième degré, c'est quand du coup Jésus et moi nous disparaissons tous les deux dans un amour tellement grand qu'il n'y a plus que les dons du Saint-Esprit. Et que le néant dans lequel s'est mis le Christ et le néant dans lequel je me suis mis laisse enfin la liberté au Saint-Esprit de jaillir dans mon corps, dans mon cœur spirituel. Et ça, c'est la vie théologale. Les trois derniers degrés d'humilité, c'est la vie théologale. La foi, l'espérance, la charité. Donc c'est la vie chrétienne normale. Eh bien, ne me dites pas que c'est difficile de faire un acte de foi. Ne me dites pas que c'est difficile de faire un acte d'espérance. Ne me dites pas que c'est difficile de faire un acte de charité. Je ne veux pas vous croire. Puisque vous avez été baptisé et que c'est réel, que vous avez été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, que votre corps a été plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Et donc vous pouvez, dans cette union, dans cette incorporation à la mort physique et la résurrection brûlante de Jésus, vous pouvez prendre de ce qu'il y a de lui pour faire un acte. C'est dans votre pouvoir, quand vous voulez. Il suffit d'y mettre votre attention et puis toute votre pauvreté. Alors faites un acte de foi, faites un acte d'espérance, faites un acte de charité. Et à ce moment-là, vous êtes dans les sept degrés d'humilité de Saint-Benoît. Nous verrons demain comment Saint-Benoît fait exploser ces sept degrés d'humilité dans le mystère de l'Église, les 12 degrés d'humilité.